D'ici à 2100, la température sur Terre pourrait monter jusqu'à 7 degrés, de quoi engendrer d'importants bouleversements climatiques. Comment les jeunes de 16 à 25 ans envisagent cette sombre perspective ? Bonjour à tous et bienvenue dans Génération, l'émission de Radio G qui s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans. Je m'appelle Pierre Benoît et je suis en compagnie de Mehdi.
Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute du 101.5 FM. Aujourd'hui dans Génération, nous allons nous intéresser aux rapports qu'entretiennent les jeunes générations avec les enjeux environnementaux.
Oui, comme on l'a entendu, la planète risque de connaître un fort dérèglement climatique d'ici la fin du siècle. Or, ça concernera directement les jeunes générations, puisqu'un enfant né en 1998, par exemple, aura 70 ans en 2068. Alors Mehdi, qu'est-ce qu'on fait quand on sait qu'on risque de connaître de plus en plus de catastrophes naturelles ?
Eh bien, on agit. En tout cas, c'est ce que vont nous prouver les intervenants dans cette émission, puisqu'on va accueillir Claire Leclerc qui a créé le site Les Pépites Vertes pour recueillir le témoignage de jeunes qui n'ont pas attendu de vivre la crise de la quarantaine pour déjà s'engager dans les domaines de la transition écologique.
D'autant qu'aujourd'hui, on peut se former dès le lycée au métier de l'environnement, avec le bac STAV par exemple.
Et oui, et c'est ce qu'on découvrira en troisième partie de notre émission aujourd'hui.
Et pour ceux qui aiment vraiment l'aventure et veulent s'immerger totalement dans le milieu paysan, nous découvrirons ce qu'est le woofing avec un authentique témoignage.
Et ça, c'est un beau programme.
Exactement, Mehdi. Et on commence tout d'abord avec David Launay de l'association Wabi Zabi qui propose d'éveiller cette conscience environnementale. Et vous allez voir que les jeunes répondent présents pour protéger leur planète et leur avenir.
Vous êtes bien sur Radio G, c'est Génération et on est ensemble pendant 40 minutes. Bonne émission à tous.
Bonne émission. Avec David Launay, co-créateur de Wabi Zabi, qui est une association. Alors c'est une association qui fait quoi précisément, David ?
Alors à la base, on cherchait un terrain pour mettre en place de la permaculture, de l'expérimentation en permaculture. La permaculture, c'est très très vaste. C'est vraiment tout un courant de pensée qui parle de ce fait des énergies renouvelables, de remettre l'humain au centre de la nature, de ne pas utiliser de produits, de recycler les choses, toutes les recycleries, tout ça. On est un peu dans la permaculture. Donc c'était, nous, ça partait de chercher un terrain et pouvoir faire un accueil du public, c'est-à-dire pour des activités différentes, toujours en lien avec le développement durable, le respect de soi, des autres, voilà, pas d'activité de consommation pure, c'était vraiment des choses proposées par le public, pour le public. Nous, à la base, c'était au tout début, c'est un lieu ressource. C'est resté un lieu ressource, mais on a créé une association, parce que c'est le meilleur cadre qui correspond pour pouvoir mettre en place le projet. Il y a plein d'autres cadres qui existent, mais celui-là, l'association a été le mieux. Donc on a trouvé un lieu qui se trouve du côté de Bonnet. C'est un propriétaire terrien qui nous a mis à disposition un terrain de 5000 m² et plusieurs espaces aussi forestiers. On utilise ce terrain, on remet en valeur dans le but d'en faire un lieu d'accueil du public. Donc pour en faire un jardin pédagogique, c'est-à-dire pour permettre aux personnes de découvrir comment les légumes se plantent, comment ils se récoltent, qu'est-ce qu'on cultive avec. De pouvoir aussi mettre en place par exemple des ruches pour l'apiculture, voilà, beaucoup de choses qui sont en lien avec la nature. Donc le but du jeu, nous, c'est de vraiment rentrer en contact avec toutes les personnes, toutes les personnes ressources, voilà, les locaux, qui peuvent amener des choses à l'association et inversement, et que l'association peut contribuer à faire connaître. Donc des apiculteurs, des personnes qui travaillent l'Ayurveda, qui font des différents ateliers, il y a beaucoup de choses.
Très ancré dans le territoire.
Voilà.
Et axé environnement du coup.
Axé environnement et artisanat local.
Et artisanat.
Voilà. On n'a pas de limite, on s'en met pour l'instant pour éviter de partir n'importe où, mais on n'a pas vraiment de limite. On se rend compte que ça peut vraiment partir dans tous les sens. C'est bien, mais au début, il faut quand même arriver à... Voilà. Donc pour l'instant, okay. On est surtout sur le travail de la terre et de proposer un jardin pédagogique pour que des groupes, que ça peut être des scolaires, des associations, des particuliers, voire pourquoi pas des entreprises, passent une journée, une demi-journée, un atelier précis à découvrir des choses dans un cadre qui est surtout apaisant. On est une association, donc du coup on pourra adhérer à l'association pour pouvoir venir participer du coup à l'effort de création de l'association et de mise en place. Et après, il y aura des ateliers qui seront payants et qui seront à destination, du coup, des bénévoles qui les mettent en place ou des prestataires.
Ça s'adresse à tout le monde en termes d'actions proposées et en termes d'accueil d'adhérents, de bénévoles.
Oui.
Mais parmi les bénévoles, il y a beaucoup de jeunes, je crois.
Il y a pas mal de jeunes. Oui, il y a des jeunes qui sont vraiment intéressés parce qu'en fait, là où on est, il y a aussi le scoutisme est assez est vraiment développé. Donc, on a beaucoup de scouts qui sont intéressés et qui eux fonctionnent dans d'autres structures, qui veulent vraiment utiliser ce biais, ce qu'ils font déjà, mais de façon plus ou moins informelle. Avec le scoutisme, ils sont dans leur domaine et du coup, ils aiment venir et puis interagir avec d'autres champs d'action. Nous, on a eu des ateliers participatifs où des jeunes qui s'étaient inscrits à des associations comme des maisons de quartier, tout ça, sont venus pour nous aider à partir de 12 ans jusqu'à 16-17 ans. Donc voilà, après, on a d'autres jeunes jusqu'à 25, 35, 40, on a un peu de tous les âges. Il n'y a pas de restriction de public. On peut aussi accueillir des publics en situation de handicap. Le tout pour nous, c'est de trouver les animateurs ou les bénévoles qui aient des compétences pour pouvoir adapter, nous aider, nous, en amont, à créer les ateliers ou à adapter les visites.
Généralement, les motivations des jeunes qui sont là, qu'on on va dire entre 15 et 25 ans, par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose de commun à
ceux qui viennent ? C'est la campagne, c'est le fait d'arriver dans un lieu qui est quand même, parce qu'il y a un château à côté, il y a un domaine viticole, le lieu est quand même un certain cachet. Et du coup, c'est surtout pour mettre rajouter leur pierre à l'édifice. Et c'est assez visible en ce moment. Parce que du coup, on a toutes les structures à mettre en place. Et on travaille pas mal le bois, on travaille la terre. Donc c'est des journées qui leur changent. Et surtout, nous, quand ils viennent nous aider, on essaie de leur expliquer qu'est-ce qu'ils vont nous apporter exactement. Quand ils font ça, ça va nous aider pourquoi et comment ça va se répercuter. Et nous, vraiment en quoi ça nous aide. Et surtout, pourquoi ils peuvent après revenir, parce que ça peut être pérenne.
Quel avantage tu vois à avoir des jeunes? C'est quoi, en quoi ils vont être utiles?
À nous, ils ont un autre regard. Nous, on a un certain regard. En moyenne d'âge, on doit avoir 38 ans. Donc, on est une certaine génération. On voit ça d'un certain œil. Mais les jeunes qui viennent, certains sont accompagnés d'animateurs ou d'accompagnants. Et ben, ils apportent un nouveau regard. Ils nous donnent des nouvelles idées, une fraîcheur qui est intéressante. Surtout, on voit aussi leur... que la motivation qu'ils ont n'est pas financière, n'est pas, y a pas vraiment de rétribution à part le fait d'avoir pu apporter quelque chose vraiment à l'association. Les plusieurs groupes qui sont venus sont repartis. Il faut que ça soit visible. C'est important. Il faut que pour eux, quand ils repartent, ils puissent avoir vu que quelque chose avait bougé. S'ils sont juste là pour tourner la pelouse. Voilà, là il faut qu'ils puissent, par exemple, nous les différents chantiers qu'il y avait, c'était, on a tout un mur en pierre qu'il faut réhabiliter, donc il y a du travail, il faut creuser un peu la terre, chercher les pierres qui sont tombées, les mettre de côté, enlever tout ce qui est le lierre qui est envahissant, mais on explique que voilà, on coupe le lierre, mais on replante d'autres choses à côté, et que du coup, si après ils veulent revenir pour replanter, et voir pourquoi pas avoir un arbre, ils possèdent pas l'arbre, mais ils l'ont planté, ils vont pouvoir venir le voir, et pourquoi pas l'entretenir et voir comment il pousse. Donc c'est vraiment à long terme.
Ce que tu constates, c'est que les jeunes qui viennent à Wabi Sabi, dans ton association, ont déjà une sorte de conscience écologique, environnementale, et qu'en repartant, elle est confortée.
Certains ont une conscience. Après, c'est des groupes assez hétérogènes. Hein. C'est des animateurs, il y a des fois qui les amènent. Donc ils sont là pour les sensibiliser. Donc il y en a qui n'ont pas du tout le... Certains ne savent pas ce qu'ils font là, hein, très peu, mais... Et après la journée, il y a un engouement qui se met en place. Et nous, les travaux qu'on fait, il n'y a pas d'obligation. On n'est pas là pour leur dire, il faut qu'à la fin de la journée, ça soit fait. On est vraiment pour leur dire, aujourd'hui, le but, si c'est forêt réalisable, c'est d'arriver à faire une structure en bambou complète, c'est d'arriver à nettoyer cette parcelle de terre, à réaménager celle-ci. Là, par exemple, une fois, on a passé 3 heures à aller chercher du crottin d'âne et de poney partout sur le terrain pour pouvoir après le valoriser. Et du coup, ramasser du crottin, ça les a... Parce qu'ils voyaient le but. C'était pas juste ramasser du crottin pour ramasser du crottin. Après, du coup, on l'a mis dans un espace et on leur a expliqué ce que ça allait devenir. Et on leur a montré ce qu'on avait déjà ramassé comme crottin, ce que c'était devenu. On l'a remué, ils ont pu voir. Et ils se sont rendus compte que il y avait un intérêt certain, voilà. Si à la base, c'est ramasser des crottes, quoi.
Une éducation écologique, quoi, enfin environnementale, respectueuse de...
C'est ça. Et ils se rendent compte que n'y a pas besoin de travailler. Il faut beaucoup travailler, et que ce soit régulier. Mais si on est nombreux, les tâches peuvent devenir intéressantes, et il y a un partage qui vraiment se déroule. On n'est pas là juste pour faire des tâches ingrates. Donc il y a des personnes, je pense, à terme qui vont venir et qui participeront à des ateliers ou à des chantiers participatifs parce que ça leur fait plaisir. On a des personnes entre 20 et 30 ans qui sont venues juste pour enlever des clous à des planches pour qu'elles puissent être utilisées parce que ça leur change de leur quotidien en ville ou dans leur lieu de vie habituel. Et c'est une activité voilà, qui les déstresse, qui les pose, qui leur fait du bien.
Merci David de l'association Wabi Sabi. Tu veux rajouter des coordonnées peut-être ?
Oui, vous pouvez nous joindre sur nos numéros de téléphone. On a une adresse mail et une page Facebook. C'est en 49, c'est la première qui apparaît. On a du coup aussi une newsletter. Donc si vous êtes sur la page Facebook, vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Wabi Sabi, donc wabisabi49@ecomail.fr. On a des coordonnées directes qui sont présentes sur la page Facebook.
Super. Merci beaucoup David.
Pas de quoi.
On peut le constater facilement, les jeunes se sentent préoccupés par ces questions environnementales. Ils sont de plus en plus tôt sensibilisés à ces problématiques. Ce qui a pour conséquence directe que leurs premiers pas dans la vie active s'orientent souvent vers les secteurs de la transition écologique.
Exactement, et c'est ce que tente de montrer Claire Leclerc en recueillant un maximum de pépites vertes. Bonjour Claire.
Bonjour.
C'est un plaisir de te recevoir dans l'émission Génération, l'émission dédiée aux jeunes de 16 à 25 ans. Claire, tu es diplômée de Sciences Po Paris. Tu as fait des études en communication et en innovation numérique. Dans ta dernière année de master, tu es passée dans une école d'ingénieurs qui s'appelle Télécom Paris. Et tu travailles maintenant à l'association Change Now.
Exactement.
Et tu as récemment lancé une chaîne YouTube qui s'appelle Claire l'éclair, où tu nous parles de pépites vertes. Et c'est pour ça qu'on te reçoit aujourd'hui. Peux-tu nous expliquer qui sont ces fameuses pépites vertes ?
Oui, merci beaucoup de m'avoir dans cette émission. Les pépites vertes, ce sont des jeunes qui, directement à la sortie de leurs études, ont décidé d'avoir un premier job dans la transition écologique. On voyait beaucoup, je trouve qu'il y a beaucoup médiatiquement de choses qui sont faites sur les trentenaires qui sont en reconversion et qui décident de donner du sens à leur job après avoir fait 5 ans de conseil ou dans une grande entreprise qui ne leur correspond pas. Moi, je trouve ça dommage de ne pas mettre en lumière ceux qui, directement, ont eu l'audace, peut-être contre l'avis de leurs parents ou l'avis de leurs profs, de se dire, c'est simple, à la sortie de mes études, moi, je veux que mon job et mon énergie et mon cerveau ils soient donnés à un projet qui a un impact positif sur la planète.
Tu as donc réalisé plusieurs interviews sur des sujets à chaque fois différents, toujours en rapport avec la transition écologique. Est-ce que tu peux nous parler d'une interview qui t'a marqué ou simplement de ta dernière vidéo ?
Oui, complètement. Alors, ce qui est très important dans ce projet-là, c'est de bien montrer la diversité des parcours, de bien montrer qu'il n'y a pas un choix de carrière, mais qu'il y en a plein. Donc, on va mettre en lumière aussi bien des jeunes qui travaillent en ONG, en association, en politique, en entreprise. Pour répondre à ta question, celle qui m'a le plus marquée, c'est celle avec ma petite sœur, puisque c'est la première que j'ai lancée. Ma petite sœur, elle est créatrice d'une école qui s'appelle l'École d'agroécologie voyageuse à la suite de ses études d'agronomie. Et du coup, c'était très important pour moi de montrer qu'en sortie d'école d'ingénieur, on pouvait s'engager sur l'écologie. Donc c'était génial parce qu'on l'a enregistrée dans le salon chez mes parents, et mes parents étaient un peu enfermés dans la cuisine à ce moment-là, donc c'était rigolo. La dernière vidéo, on a dû la faire avec les moyens du bord pendant le confinement, donc c'était un live. Et là, je me suis dit, si je fais un live, il faut qu'il soit assez chouette et innovant, pas comme tous les Zooms qu'on a vus partout en ce moment sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai travaillé avec une régie professionnelle qui nous a fait un truc super chouette en termes de rendu. Et c'était en live sur sur Instagram. Non, pas du tout. C'était en live sur YouTube et sur LinkedIn. Et c'était la première fois qu'on faisait un live sur LinkedIn, donc c'était chouette. Et puis, il y avait 3 pépites qui parlaient d'entrepreneuriat et qui expliquaient pourquoi, même si elles avaient 23, 24, 26 ans, elles étaient motivées par l'entrepreneuriat.
C'est super intéressant d'avoir le témoignage de toutes ces personnes-là, parce que c'est vrai qu'en fin de compte, on n'en parle pas beaucoup de la transition écologique, alors que c'est le sujet qui nous concerne tous. Quels sont les prochains thèmes que tu aborderas dans tes futures vidéos ?
Alors, en thématique qu'on a déjà couverte, il y a l'océan, l'agriculture, l'entrepreneuriat, mais aussi le conseil. Donc, je pense que là, il va falloir qu'on aille se concentrer sur le travail dans un grand groupe. C'est quand même un sujet de savoir que les grands groupes, effectivement, polluent beaucoup. Mais comment est-ce qu'on fait pour transformer ces grands groupes et comment est-ce que les jeunes talents peuvent aider les grands groupes à se transformer ? Donc, j'aimerais beaucoup avoir un entretien avec une personne qui travaille dans un grand groupe.
Eh bien, en tout cas, moi, je trouve que ta chaîne YouTube Claire Leclerc, c'est une super idée. Et j'espère que ça éclairera les lanternes de tous les jeunes qui se posent des questions sur leur orientation. Maintenant, parlons un peu de toi. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais à l'association Change Now?
Oui, avec plaisir. Alors, je vais juste préciser, c'est pas une association, c'est une entreprise. Et justement, c'est parce que pendant longtemps, on a trouvé que les sujets liés à l'écologie, ils étaient relégués au bénévolat ou à l'associatif. Et la volonté de Change Now, c'est de dire qu'en fait, on peut créer des entreprises qui ont un impact positif pour la planète. Donc, Change Now, en tant que telle, est une entreprise. Et moi, je suis responsable de la communication. Donc, ma mission, c'est d'activer les réseaux sociaux, mais aussi la presse, les partenariats médias, pour bien faire connaître notre entreprise qui est donc une plateforme qui va mettre en lumière des entrepreneurs pour la planète et les connecter à des investisseurs, des grands groupes, des talents, mais aussi pour mettre en lumière eh bien, ces nouveaux modèles. Par exemple, peut-être que des solutions que vous pouvez connaître qui sont dans notre réseau, ça va être Too Good To Go qui permet aller chercher des produits qui allaient être jetés à la poubelle, ou alors Yuka qui permet de scanner les aliments et de savoir qu'est-ce qui est bon ou pas pour la santé. Donc voilà, toutes ces innovations-là, c'est aussi dans ma mission de faire des partenariats avec des médias pour qu'on en parle de plus en plus.
Et à quel moment de ta vie tu t'es sentie concernée par l'écologie? À quel moment tu t'es dit « il faut que j'en parle »
En fait, c'est rigolo parce que moi, du coup, en ce moment, je travaille à Paris, mais je suis originaire de Segré et j'ai fait une année de césure à Angers. Et c'est clairement pendant mon année de césure à Angers que j'ai eu le déclic, puisque j'ai travaillé sur un projet d'alimentation locale qui s'appelle La Ruche qui dit oui. Et du coup, j'ai réuni une dizaine d'agriculteurs du coin d'Angers pour vendre leurs produits. Et d'aller visiter leurs fermes, d'aller visiter leurs exploitations, ça m'a fait un énorme déclic sur l'alimentation, parce que l'alimentation, c'est une porte d'entrée géniale dans l'écologie, parce que ça te touche toi et ta santé, ça touche l'agriculteur que tu rémunères, mais ça touche aussi le sol et la manière dont on traite la nature dans l'alimentation. Donc ça a été ça mon déclic à moi.
Et qu'est-ce que tu aimerais dire aux jeunes qui ont peut-être peur de s'engager dans la transition écologique ou qui ne connaissent tout simplement pas le domaine ?
Déjà, j'ai envie de leur dire d'aller voir sur l'annuaire des pépites vertes, puisqu'on a aujourd'hui 23 jeunes qui sont référencés dans l'annuaire. Il y en a 8 autres qui sont sur la chaîne Claire l'éclair. Donc, l'objectif pour nous, vraiment, c'est de donner des idées de jobs qui existent. C'est quoi travailler dans l'économie circulaire? C'est quoi travailler dans une start-up? Ou alors, c'est quoi travailler dans une association? Donc, vraiment, nous, on a une mission de pédagogie d'expliquer. Donc, je dirais ça en premier. Et la deuxième chose, j'irais d'être curieux et de se poser la question, à la sortie de vos études, qu'est-ce que vous avez envie de faire de votre énergie? On sait quand même toutes et tous que là, il y a des échéances climatiques qui arrivent très vite. Il faut qu'on agisse. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire plein de choses à plein de niveaux, soit en bénévolat si on a envie que ça reste dans une partie bénévole de notre vie. Mais de plus en plus, il y a des offres de job et des opportunités de carrière qui existent dans la transition.
J'ai aussi vu que tu avais écrit un article 21 questions pour trouver sa voie.
Oui, c'est vrai. J'ai écrit cet article parce qu'en fait, c'est rigolo. Moi, je raconte beaucoup mes expériences de stage et de job sur mes réseaux sociaux. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes m'écrivent, notamment sur LinkedIn, pour me demander des conseils. Et à un moment, je me suis dit, mais est-ce que, au lieu de donner mes conseils un à un, je les mettrais pas dans un seul article pour les récapituler à un endroit? Donc en fait, ces 21 questions, c'est des questions que je me suis posées à moi-même en premier. Je les ai testées sur moi. C'est des questions qui vont permettre d'identifier tes forces. Par exemple, une question, c'est pourquoi est-ce que tes amis ou tes proches ils viennent te demander de l'aide? Est-ce que c'est parce que t'es un super bricoleur? Est-ce que c'est parce que t'es un super cuisinier? Ou alors t'es un super communicant, tu racontes trop bien les histoires? Et bien ça va être des petits indices qui vont t'aider à savoir là où t'es fort. Après il y a des questions qui sont c'est quoi ton job de rêve? On imagine demain t'as une baguette magique, c'est quoi ton job de rêve? Et bien en fait c'est s'autoriser à se dire qu'en fait si ça se trouve ce job de rêve et cette baguette magique, ben en fait on peut y arriver. Donc voilà, c'est 21 questions qui sont résumées, effectivement, si vous tapez ça sur Google, 21 questions pour trouver son job de rêve, vous allez pouvoir avoir quelques clés de réponse sur votre orientation.
Est-ce que tu aurais quelques mots pour conclure? J'ai peut-être oublié quelques thématiques dont tu voulais parler.
Écoute, j'ai pas grand-chose de plus à dire que soyez curieux et soyez engagés. On a sorti une tribune lundi dernier avec un collectif de jeunes engagés. On est vraiment presque une centaine de signataires qui vont d'associations comme le REFED, qui est l'association des associations du développement durable, à des entrepreneurs. Et j'ai fait vraiment attention à ce qu'il y ait des signataires de tous horizons qui signent pour montrer que les jeunes, on n'est pas seulement à l'origine de Covid parties ou en train d'acheter acheter des trucs chez Zara et puis on se retrouve en photo sur Internet. Pas du tout. On est une génération qui est au courant, qui s'informe, notamment via les réseaux sociaux, c'est sûr, mais c'est riche. Donc, osez le dire, osez l'incarner et osez transformer votre sidération en action parce qu'on est de plus en plus nombreux et vraiment, c'est ça aussi l'objectif des Pépites Vertes, c'est de montrer qu'on n'est pas tout seul.
Eh bien, merci beaucoup Claire d'être venue dans Génération. C'était un plaisir et je te souhaite bon courage pour la suite.
Merci Mehdi, à très vite.
Yes, on attend tes prochaines vidéos sur ta chaîne YouTube et tous les liens seront disponibles dans le podcast de l'émission et sur Facebook.
De nombreuses possibilités d'action s'ouvrent aux jeunes pour agir contre le réchauffement climatique. Mais est-il possible de suivre un cursus scolaire pour se former au métier de l'environnement ?
Et bien évidemment, puisqu'il existe des bacs STAV, sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, qui visent à préparer aux études supérieures dans les secteurs environnementaux.
On écoutera ça, et ensuite on découvrira ce qu'est le woofing. Mais avant ça, on vous propose un peu de musique qui fait du bien à notre conscience écologique.
Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Et les mains vont faire la part des choses. Il est grand temps de faire une pause, troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagne, de la vie marine, du monde animal, crie le bien fort, use des cordes vocales. Pas de boulot,
pas de diplôme,
partout la même
odeur de zone, plus rien n'agite tes neurones,
pas même le shit que tu mets dans tes cônes. Va voir ailleurs,
rien ne te retient,
va vite
faire quelque chose de tes mains,
ne te retourne pas,
ici tu n'as rien,
et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi
près d'une rivière,
écoute le coulis de l'eau
sur la terre, dis-toi qu'au bout
et
il y a la mer
et que ça n'a rien d'éphémère.
Tu comprendras alors que tu n'es rien comme celui avant toi, comme celui qui vient, que le liquide qui coule dans tes mains
te servira à vivre jusqu'à demain matin. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien fort, use tes cordes vocales. Assieds-toi près d'un vieux chêne et qu'on parle à la race humaine. L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène, mérite-t-il les coups de hache qui le sait? Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde de tout son orgueil. Sa maison est là, tu es sur le seuil. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey, crie le bien fort, use tes cordes vocales. Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes tu as envie de rire. Et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. J'aimerais pour tous les animaux que tu captes le message de mes mots, car un lopin de terre, une tige de roseau servira à la croissance de tes marmots, servira à la croissance de tes marmots.
C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien fort, use tes cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey!
C'était Trio et l'hymne de nos campagnes. Vous êtes toujours à l'écoute de Génération, l'émission à destination des jeunes de 16 à 25 ans sur Radio G.
Bonjour Marceau, tu as 20 ans et tu as suivi la filière STAV au lycée Dufresne. C'était quoi tes motivations, tes attentes en rejoignant cette filière ?
J'ai voulu d'abord faire un bac S. Finalement, j'ai vu la possibilité du staff que je connaissais pas du tout. Du coup, la filière technologique milieu d'année de seconde, je me suis dit que ce serait une bonne possibilité du coup de faire staff et je regrette pas du tout mon choix parce que tout ce qui a été fait pendant cette session a été très très intéressante pour moi.
Justement, la STAV, la STAV, ça, qu'est-ce qu'il y a ? T'as appris quoi en fait dans tout ça ? C'est quoi les contenus d'une filière STAV en 2 ans ?
Alors, on apprend beaucoup de choses. On apprend évidemment toutes les notions normales de bac en général, les mathématiques, le français. Mais on va surtout, même sur des matières générales, étudier des possibilités agricoles ou des possibilités environnementales. Et ça, c'est très intéressant. Et on a aussi des matières telles que l'agronomie, la zootechnie, l'économie aussi. Économie plus poussée au niveau de l'écologie et de la production. J'ai fait du coup un stage en Jussy. Donc c'était un emploi de 1 mois où j'ai pu travailler en dessous de Nantes, dans le bassin versant du Brivet, très exactement, pour enlever du coup la plante envahissante qu'est la Jussy. C'était un intérêt écologique, c'était pour justement limiter la plante envahissante, en fait, qui est de base était dans les aquariums de particuliers, et quand l'eau a été déversée dans les fossés, bah du coup elle s'est implantée en France et elle s'est développée de sorte que chaque année le bassin versant du Brivet a besoin de plusieurs employés pour amener à la limiter, parce qu'on n'est pas sur un stade de la stopper, mais au moins de la limiter chaque année.
Donc ça, c'est un domaine d'action typique en lien avec la filière STAV finalement.
C'est ça. En fait, le bac STAV m'a beaucoup ouvert les yeux sur l'écologie et des choses comme ça que j'avais déjà l'habitude un petit peu de côtoyer, parce que j'ai des parents anciennement agriculteurs et j'ai toujours vécu un petit peu là-dedans. Mais vraiment, le bac STAV m'a vraiment servi, parce que à ces âges-là, à 15 ans, 16 ans, pas trop dans le délire écologie, tu y réfléchis pas trop. Mais en fait, grâce à ça, ça te permet de rentrer dedans et de t'informer un petit peu sur la vie en général.
Les suites d'études typiques d'un bac STAV ?
Des BTS, surtout, en production animale ou en aménagement du paysage. Il est possible que ce soit BTS GPN aussi, également. Sinon...
C'est quoi ça, le GPN ?
GPN, c'est BTS Gestion et Protection de la Nature. Du coup, plus en rapport avec l'écologie. Quand on choisit justement le lycée Lefresne et le bac STAV en général, on a une vision de l'écologie et de l'animal différente. Du coup, le plus souvent, on part pas sur ces délires comme ça, mais ça arrive des fois. Je sais que j'ai des collègues qui ont fait aucune formation juste après. Ils sont partis directement en agriculture, ou alors ils sont partis vers vraiment de la production végétale directe.
Merci beaucoup Marceau d'avoir témoigné de ton expérience, de ton parcours en filière STAV.
Merci à vous.
Longtemps avant la création de cette filière STAV en 1994, un système de découverte et d'échange de connaissances agricoles, souvent alternatives, a vu le jour en Angleterre dès les années 70.
Et depuis, le woofing est plébiscité par tous ceux qui veulent découvrir et se rapprocher de la terre et du monde paysan, plus respectueux de celle-ci.
Paysan maraîcher en Maine-et-Loire, associé, tu as 37 ans et tu as une exploitation agricole, enfin tu fais du maraîchage bio. Alors déjà, c'est quoi ton parcours ?
Par l'intermédiaire d'ailleurs du woofing, il est venu l'idée de s'installer en fait, de se joindre à une exploitation existante, et au final ça s'est transformé en une association et un remplacement d'associé. Elle a 12 ans, ça fait 12 ans qu'elle est en place, et moi je suis arrivé en cours, ça fait 4 ans à peu près.
Ok, donc toi t'as pratiqué le woofing ?
J'ai beaucoup voyagé, donc j'en avais fait à l'international, je pense à la Nouvelle-Zélande comme ça en vrac. J'en ai fait dans la ferme où je suis d'ailleurs, c'est rigolo. Et d'ailleurs Marco qui est associé avec moi, lui a fait, je pense, une petite année voilà, à naviguer dans les fermes et à pratiquer le woofing. Ouais.
Et du coup, au sein de votre petite ferme, vous accueillez des woofers qui sont généralement jeunes. C'est quoi pour vous l'intérêt d'avoir ce genre de profil ?
En ce qui concerne l'âge, on choisit pas forcément, mais naturellement, en fait, dans ce réseau-là, c'est des jeunes qui répondent pour la plupart, qui viennent, voilà, s'expérimenter, mettre les mains dans la terre, en échange du couvert, de l'accueil, de l'environnement social. C'est un lieu, voilà, qui mélange plein de choses et qui satisfait tout le monde. Nous, ça nous donne un coup de main sur l'exploitation et du coup, on peut transmettre notre savoir-faire, j'ai envie de dire. Donc la personne qui vient ici va repartir normalement avec la banane, avec une expérience en plus et peut-être avec des projets.
Est-ce que vous avez des retours d'expérience de woofers, de jeunes woofers qui ont ensuite fait leur propre exploitation, alors qu'on continue dans le milieu agricole ensuite ?
Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a qui viennent avec un objectif derrière, c'est-à-dire un projet. Ils viennent là, c'est vraiment, ils prennent toutes les informations qu'ils peuvent ici, et du coup, c'est un bagage qu'ils se mettent dès qu'ils arrivent et ça concrétise un peu ce qu'ils avaient dans la tête. Donc c'est une expérience en plus, je pense, pour quelqu'un qui vient ici. C'est quand même riche en plein de, voilà, d'informations, d'expériences. C'est vrai que ça peut être qu'un plus. Là, il y en a qui sont passés cette année, par exemple, qui ont des projets très concrets derrière. Ça, c'est chouette, ça.
Pour 2021, tu vas continuer à prendre des woofers ?
Ah oui, complètement. Bah, nous, ça fait partie du fonctionnement. J'ai envie de dire, même avant que je sois là, on recevait des gens. Enfin, voilà. Ça fonctionne. On a toujours des demandes et beaucoup plus de gens, de jeunes, reviennent à faire des choses essentielles, remettre les mains dans la terre. C'est grandissant.
Merci beaucoup, Pierre. JB, 21 ans, t'as fait du woofing pendant un an.
Ouais.
Qu'est-ce qui t'a poussé à faire du woofing ?
Ce qui m'a poussé à faire du woofing, c'est un mode de vie qui me tentait, d'être proche de la nature, et surtout aussi de faire quelque chose de concret, d'avoir un résultat à la fin de la journée, de voir quelque chose qu'on a produit, c'est une satisfaction.
Et du coup, dans ton année de woofing, est-ce que t'as réussi à trouver cette satisfaction ? Est-ce que ça t'a vraiment apporté ce que tu cherchais par rapport à ça ?
Ouais, exactement.
Comment tu fais du woofing ? Comment tu te retrouves dans une ferme à proposer tes services, à apprendre auprès de fermiers, de paysans ?
Tu peux souscrire à l'association Woofing France. C'est un site internet. Tu payes 20 ou 25 euros par an pour devenir woofer. Une fois que tu as souscrit, tu vois tous les numéros de téléphone des hôtes. Tu as sur le site du Woofing, tu as une liste d'hôtes, tu as une carte où tu vois où est-ce qu'ils se situent. Tu les appelles. Ils ont une description comme une page. Selon ce que tu cherches, tu vas téléphoner des hôtes qui font de la boulangerie, du maraîchage, de l'élevage, etc. Il y a un peu de tout. Tu discutes un petit peu avec eux, tu vois comment ça se passe une journée type, tu te renseignes bien. Et ensuite, combien de temps est-ce que tu peux rester ? Il y a des gens, une semaine, pas plus. D'autres, ça peut être plus de 3 mois, tu vois. Ça dépend vraiment des gens. Ensuite, tu vas chez eux, tu travailles avec eux, tu suis leur mode de vie. C'est ça le but, c'est tu as un échange.
Est-ce qu'il y a une expérience, est-ce qu'il y a eu un moment difficile dans ton expérience de woofing où ça a été dur, où ça a été fatigant, où t'as pu douter d'avoir envie de continuer ?
C'est vrai que ça peut être dur des fois. Ça reste une ambiance qui est quand même sympathique, c'est fait pour qu'on puisse profiter. Après, tu fais pas d'omelette sans casser des œufs. Tu te dis que c'est le chemin par lequel il faut passer. C'est pas seulement un travail, c'est aussi des valeurs, une éthique. Si tu choisis de faire quelque chose à la main alors que tu pourrais faire ça en 10 secondes avec le tracteur, tu le fais quand même à la main même si ça te prend 3 heures. C'est parce que derrière, t'as une éthique, tu as un vrai travail et t'as une production qui... t'as une fierté derrière ça.
Pour toi, ça a été très formateur, du coup j'imagine que t'as appris beaucoup de choses. T'as un projet maintenant ?
Ouais, le fait d'avoir vu pas mal de woofing, ça m'a permis de voir beaucoup de process, de bon fonctionnement, mais aussi de mauvais. Et j'ai fait un peu ma popote, j'ai pioché à droite à gauche ce que j'aimais, mais aussi ce que j'aimais pas. J'ai appris d'autant de ce qui m'a plu, de ce qui m'a déplu. Et derrière ça, bah, c'était pour me former, pour un jour m'installer sur un terrain et vivre dessus. Et peut-être même accueillir du monde plus tard.
Est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui a 18 ans, qui finit ses études, ou même qui est encore en études, qui serait intéressé par l'écologie, l'environnement, de se lancer dans le woofing ?
Ah oui, tout à fait, il faut se lancer. Surtout aux étudiants, ça leur fait une année sabbatique, ils sortent de la théorie, ils font de la pratique, ils voient beaucoup de choses, ils augmentent leur vision du monde. C'est une initiation. En fait, tu vas arriver, tu vas être un woofer, tu vas là pour filer un coup de main, tu vas rester 2-3 semaines, mais en rien, ça t'apporte une réelle formation. Tu vas élargir tes connaissances, tu vas apprendre 2-3 trucs, mais tu vas pas devenir maraîcher pour autant, tu vas pas devenir pépiniériste pour autant, tu vas pas devenir éleveur de cochons pour autant. Tu vas découvrir. Si tu vas aller plus loin, le woofing, c'est pas ce qu'il faut.
Merci, JB. Si on doit conclure cette émission de Génération, Mehdi, Que peut-on dire du rapport des jeunes avec les enjeux à venir autour du réchauffement climatique?
Eh bien, le premier constat, les jeunes se sentent concernés par cette problématique. C'est ce que nous a appris David de l'association Wabi Zabi, qui propose des activités autour du recentrage écologique et dont plusieurs jeunes se sont portés volontaires. Mais c'est aussi ce que nous a fait découvrir Claire Leclerc avec ses pépites vertes, au profil divers et varié, mais qui partagent toute cette même envie d'agir pour favoriser la transition verte.
Et si j'ai envie de me former ou de découvrir des activités en lien avec la gestion de l'environnement, je fais comment ?
Eh bien, il y a plusieurs options. On peut faire du woofing et s'immerger totalement dans le milieu agricole, qui agit en respect de l'environnement. Mais on peut aussi se renseigner auprès de la filière STAV des lycées agricoles, par exemple, qui permettra de se préparer aux études supérieures dans ce domaine de la transition écologique.
Donc les jeunes agissent, et des structures en place leur permettent d'avoir les bons outils pour soigner la planète. Merci Mehdi, merci à tous nos intervenants. Les liens vers leurs sites respectifs sont en description du podcast.
Et n'hésitez pas à aller vers eux si vous êtes intéressés pour vous embarquer dans l'aventure écologique.
À bientôt pour une nouvelle émission de Génération sur Radio G.
L'émission des 16-25 ans.
Salut!
Salut!
Il s'est déplacé quelques vertèbres.